petit pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
Alice Milo.
Bonjour. Rivières, lacs, marécages, étangs et deltas constituent les zones humides de notre planète. Des espaces précieux autour desquels la vie s'organise. Un fabuleux réservoir de biodiversité que les hommes ont toujours su exploiter par des diverses activités. Mais les menaces pèsent en permanence sur ces milieux fragiles. Dans le monde, elles ont perdu les deux tiers de leur surface en un siècle. Alors à l'occasion de la Journée mondiale des zones humides qui a eu lieu jeudi dernier, une question s'impose, comment les préserver ?
C'est pas du vent sur RFI.
Et nous sommes en compagnie de Jean-Michel Derex, spécialiste de l'environnement et auteur du livre La mémoire des étangs et des marées, paru aux éditions Ulmer. Bonjour.
Bonjour.
Alors Jean-Michel Derex, une première question. Pourquoi avoir choisi d'écrire un livre sur les étangs et les marées de France qui, de prime abord, pourrait sembler être un sujet un petit peu étroit ?
Je suis historien environnementaliste et j'ai beaucoup travaillé sur les forêts. Et puis j'ai travaillé ensuite sur les étangs et les marais parce que c'était un sujet un petit peu inexploré. Et donc il y avait beaucoup de choses à découvrir.
Qu'est-ce que vous aviez envie de raconter sur les étangs et les marais ? Quelle image vous aviez envie d'en donner ?
La chose, c'est que les étangs et les marais, pour la plus grande partie des gens, ce sont des espaces vierges. Les derniers bastions d'une nature vierge inexplorée.
C'est l'image qu'on en a.
Alors que c'est complètement faux, et c'est même le contraire. Ce sont des espaces qui ont toujours été exploités par l'homme, et s'ils n'avaient pas été explorés par l'homme, ces marais seraient des marécages, seraient des espaces complètement incultes, c'est le contraire. Un marais ou un étang, c'est comme un champ de blé, ça se cultive.
Il y a la Camargue, le Marais Poitevin, la Baie de Somme, la Brenne, hein, pour ne citer que sur le territoire français. Pendant des siècles, ces étangs, ces marais sont considérés comme dangereux. On les associe à la maladie, même aux démons. Les hommes d'ailleurs les fuient. D'où leur vient cette mauvaise presse ?
Pour plusieurs choses. D'abord, il y a les feux follets, vous savez, ces petites flammes bleuâtres qui courent sur les flaques des étangs et des marais. Et surtout, il y a les fièvres paludéennes, qui déciment absolument une grande partie des populations, et notamment les plus jeunes. Le grand pic des mortalités dans ces pays, c'est les mois chauds, c'est-à-dire mai, juin, juillet, août. Là, véritablement, une grande partie des nouveau-nés peuvent mourir.
Et donc on associe la malaria, la maladie, en fait, aux lacs et aux étangs, alors que ce sont les moustiques, en fait, et non pas les eaux qui transmettent la maladie.
Oui, mais en fait, c'est Lavran, qu'un médecin qui découvre les causes de la malaria à l'extrême fin du 19e siècle. Regardez le terme, vous parlez de malaria, malaria. Mauvais air. On pense que les fièvres sont transmises par l'air. L'air pollué, les miasmes qui arrivent du fond des marais et qui sont transmis dans l'air, transmis par les brumes. Et donc on se méfie comme de la peste, si j'ose dire, de cette air, de ces brumes.
Et puis il y a aussi tout cet imaginaire, les démons, les dragons, les serpents qui peuplent ces marais.
Oui, tout à fait. Et puis donc les gens sont absolument terrifiés et en font un panorama assez dantesque. Hein. Il suffit de lire Daudet ou de lire
Georges Sand.
Regardez ce que dit par exemple Daudet dans les lettres de Montmoulin. Chez le garde, tout le monde grelottait, tout le monde avait la fièvre, et c'était pitié de voir les visages jeunes, tirés, les yeux cerclés, trop grands de ces malheureux condamnés à se traîner pendant 3 mois sous ce soleil inexorable qui brûle les fiévreux sans les réchauffer. Triste et pénible vie que celle de ces gardes-chasse de Camargue. Donc tout le monde dans cette Camargue, qui pourtant écrasée par le soleil, tout le monde grelottait, parce que tout le monde avait la fièvre.
Et en même temps, les hommes se nourrissent de ces étangs et des marais, donc on les fuit, et en même temps, les hommes vivent grâce
à
ça.
Oui, c'est là qu'est le paradoxal. En fait, on meurt jeune, mais on ne meurt pas de faim. Parce qu'il y a toujours un poisson, il y a toujours un canard à manger, alors que dans les pays riches, entre guillemets, céréaliers, où la soudure, et la soudure, c'est les périodes juste avant la moisson, lorsque les greniers sont vides et qu'on attend la moisson et qu'elle n'est pas faite, bien souvent, c'est là qu'il y a des mortalités pour cause de famine jusqu'au début du 19e siècle. Alors que dans les pays de marais, on trouvera toujours un poisson ou quelque chose à ramasser.
Quelles sont les activités qui vont jalonner les siècles autour des étangs et des marais et qui vont donc nourrir les hommes, mais de diverses manières ?
Alors, il y a plein de choses. Là, c'est les étangs, d'abord, ce sont des étangs production de carpe. La carpe, bon, aujourd'hui, c'est un poisson, on ne mange pas beaucoup de carpe, c'est un poisson qui est très, très couru. Sous l'Ancien Régime, il ne faut pas oublier que la carpe est un mets très, très prisé. La carpe vaut 3 fois le prix de la viande. C'est un poisson de luxe.
Et puis d'autres activités comme l'osier, la chaume, le bois, la tourbe.
Voilà, tout à fait. Alors la tourbe est un moyen de se chauffer qui est très, très utilisé jusqu'à la découverte du charbon de terre, donc au milieu du 19e siècle. Mais avant, on se chauffe beaucoup avec la tourbe, tout au moins les pauvres, les riches se chauffent avec le bois. Le problème de la tourbe, c'est que ça sent mauvais. Quand ça brûle, ça dégage une odeur très très forte, et donc il y a presque une discrimination sociale. Se chauffer par la tourbe, ça imprègne les habits, ça imprègne tout l'entourage, et donc c'est le chauffage du pauvre.
C'est également, ces mares et ces étangs, le fief des petites gens.
Oui. Il y a beaucoup de gens qui vivent du marais, qui vivotent du marais par la pêche, par la cueillette, par le braconnage également.
Et vous parlez d'une activité un peu étonnante dans votre livre, celle de la pêche à la sangsue.
Oui, 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 la pêche à la sangsue. Alors notamment c'est Brousset qui a, au tout début du 19e siècle, qui pense qu'on peut véritablement soigner par les sangsues. Et donc il y a une sangsugomania, si j'ose dire, où on va collecter le maximum de sangsues.
On plonge les pieds dans l'eau et on attend qu'elles viennent se couler.
Oui, alors les plus pauvres se déchaussent, relèvent leur pantalon et puis attendent que les sangsues viennent se coller sur les chevilles et les mollets. Ensuite, on décroche les sangsues, on les met dans un bocal et on va vendre ça chez le pharmacien. Vous savez, c'est tout ce petit univers, je ne sais pas si tout le monde connaît Les enfants des marais de Jean Becker. Et vous avez Bariton et Ragri qui sont les deux héros de ce film. Et on les voit vivre de petits boulots.
Ça se passe en 1929. Hein.
Voilà, tout à fait. Et en 1900, jusqu'à la guerre de la Seconde Guerre. Effectivement, il y a tous ces gens des marais qui existent encore et qui vivotent. Voilà.
C'est pas du vent.
On a tous un grand cheminement à faire dans nos vies et on est en train d'inventer les uns et les autres le monde de demain.
Le magazine de l'environnement sur RFI.
Il n'y a rien de plus beau que d'aider l'humanité dans sa progression. Ça donne sens à notre vie, tout ça.
Les zones humides à travers le monde, c'est le sujet d'aujourd'hui. Et tout de suite, direction Ouagadougou, au Burkina Faso, plus précisément au parc urbain de Bankweogo, le poumon vert de la capitale qui compte 255 hectares de forêts classées et de nombreuses étendues d'eau. Visite guidée en compagnie de Moustapha Sarr, le directeur du parc, au micro d'Anne-Cécile Bras.
Voilà, c'est beau là. Bon.
Alors là, il faut qu'on décrive un petit peu ce qu'il y a autour de nous. On est un peu en hauteur sur un chemin. Et de part et d'autre, il y a des mares qui sont remplies de jacinthes d'eau.
Effectivement, nous sommes sur le radier et de part et d'autre, nous avons deux mares qui abritent une très grande biodiversité aquatique et je dirais d'abord des eaux. Et ce que vous voyez en grosse, avec des larges feuilles, là c'est la jacinthe d'eau. Et naturellement, il y a les lentilles, il y a la laitue d'eau. Les eaux usées de la ville aussi coulent à travers ce parc. Et donc, il y a la fonction d'épuration qui est capitale. Donc, c'est épuré ici, donc à la sortie, là où se trouvent les populations qui font du jardinage, juste à la sortie du parc, font beaucoup de maraîchage, utilisent cette eau qui est quand même meilleure à l'entrée.
En fait, toutes les eaux de la ville convergent jusqu'au parc.
Effectivement, il faut se dire que le parc urbain Bankweogo, qui est dans une cuvette, a été considéré comme un exutoire naturel, d'abord, dans un premier temps. Et il joue, et il a joué ce rôle. 70% des eaux pluviales de la ville passent par ce parc-là, comme exutoire, comme réceptacle et tout ce que nous voulons. Et il faut se dire que c'est un chiffre qui va aller de plus en plus croissant parce que la surface de pénétration des eaux pluviales, des eaux qui tombent, se réduit chaque année. À chaque fois qu'on pose un nouveau bitume, à chaque fois qu'on fait un carrelage, à chaque fois qu'on construit une nouvelle maison, c'est la surface de pénétration des eaux qui est totalement réduite. Et ça veut dire tout ce qui est canalisé, soit par les routes, soit par les caniveaux qui existent, l'eau en tout cas trouve son chemin et se retrouve au parc urbain ici. Donc la capacité d'accueil est largement dépassée. Et ce qui fait que chaque année, nous connaissons des inondations. Le 1er septembre a sonné le maximum.
En 2009 ?
Oui, en 2009, ça a été le maximum, parce qu'on a enregistré en moyenne 1,70 m à 2 m de hauteur dans le parc. Mais au point les plus bas, par exemple, là où nous nous trouvons, au niveau du pont des Amoureux, on était à 3,84 m. Et c'est vrai, la forêt a joué son rôle parce que toutes ces eaux seraient allées où si elles n'existaient pas, si elles ne l'avaient pas aspirée. Mais il ne faut pas perdre aussi ce patrimoine. Donc, il s'agit de conserver le caractère humide, mais pas l'inonder. Il s'agit de gérer l'écoulement des eaux, mais pas assécher. Le parc urbain Bangourou, de par son caractère de réceptacle de ces eaux, est une réserve d'eau, est une zone humide et aussi le meilleur équilibreur, c'est-à-dire celui qui compense la nappe phréatique, parce qu'à travers toute sa surface, l'eau s'infiltre et approvisionne la nappe phréatique, ce qui n'est pas négligeable. Parce que c'est extrêmement important de gérer aussi nos eaux souterraines.
Jean-Michel Derex, vous êtes spécialiste de l'environnement et auteur du livre « La mémoire des étangs et des marais ». Comme on vient de l'entendre avec ce reportage à Ouagadougou, les zones humides sont essentielles à l'équilibre environnemental des territoires, notamment dans cette zone sahélienne de l'Afrique qui subit de grandes sécheresses. Quelle fonction environnementale les étangs et marais remplissent-ils en France, qui a un territoire au climat plus tempéré ?
Il y a plein de fonctions. D'abord, un rôle, d'ailleurs ce témoignage le dit très bien, un rôle d'éponge en cas d'inondation. Donc le premier rôle du marais, ça va être de prendre ces eaux, ce trop-plein et d'essayer de le prendre. Donc c'est la première cause. Il y a aussi, c'est une zone de biodiversité très très riche. Il y a beaucoup de la faune, la flore qui est très riche. Et donc il est important de conserver ces espaces pour cette raison. Et puis aussi, et c'est le thème de la journée mondiale des zones humides de cette année, c'est les zones humides face aux risques. Et là, il y a un très très grand rôle à jouer, notamment sur tous ces marais qui sont sur les littoraux. Avec ce réchauffement climatique, le niveau de la mer a tendance à monter. Il monte à peu près de, tout dépend où on se place, mais 1 mm à 2 mm par an, ce qui est considérable. Lorsque j'étais il y a deux jours à Saint-Omer, et où j'étais aussi à Brouage, ce sont des espaces qui sont à 2-3 mètres au-dessus de la mer et pas plus. Et donc lorsqu'il y a de très fortes tempête, eh bien là, ce sont des territoires qui sont menacés. Souvenez-vous, il y a 7-8 ans, à la Faute-sur-Mer avec Cynthia, et bon, il y a eu une trentaine de morts, notamment à la Faute-sur-Mer, donc ce sont des choses importantes. Et là, ce que les géographes appellent les scores, c'est-à-dire les présalés, les herbus, les molières, eh bien ce sont des zones qui peuvent être des zones tampons sur lesquelles les vagues vont pouvoir s'écraser et perdre de leur dynamisme et de leur force. Donc c'est important de conserver ces espaces côtiers de façon à préserver le territoire des hommes qui est un peu plus loin.
Et justement, rivières, lacs, marécages, étangs et deltas sont protégés depuis plus de 40 ans par une convention, la convention de Ramsar, qui répertorie d'ailleurs à ce jour plus de 2200 sites d'importance à travers le monde. Et il y a 169 pays qui ont ratifié cette convention, dont 47 États africains. Et justement, nous sommes en ligne avec Paul Ouédraogo, qui est le conseiller Afrique à la conférence de Ramsar. Bonjour Paul.
Bonjour.
Vous êtes actuellement en Algérie pour célébrer la journée mondiale des zones humides. Où se déroule-t-elle exactement ?
Alors, la journée mondiale des zones humides se déroule principalement dans deux grandes villes, à El Oued, au sud de l'Algérie, à peu près à 1h15 de vol d'Alger, où je suis actuellement. C'est un site Ramsar qui se trouve en plein Sahara. Les zones humides en plein Sahara sont les lieux où se trouve la vie en général. La vie animale, la vie végétale et la vie humaine. Et la journée mondiale des zones humides de cette année a le thème « Les zones humides, notre protection naturelle contre les catastrophes ». Vous savez que les zones humides peuvent, par exemple, aider à freiner les tempêtes, à protéger donc les communautés humaines et leurs installations contre les tempêtes et les inondations. Si vous prenez les mangroves, par exemple, ça permet surtout de protéger les communautés, les villes. Dès que les mangroves disparaissent, les tsunamis et les cyclones, les ouragans, peuvent envahir les terres sur plusieurs dizaines de kilomètres. Donc ça, c'est un phénomène qui est bien observable Là où il y a eu des tsunamis avec présence de mangroves, on a vu que l'intensité, les dégâts étaient nettement plus réduits. Et là où les tsunamis ont eu lieu et les ouragans ont lieu, et là, dans des milieux sans mangroves.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer plus précisément le rôle de ces zones humides dans la protection de l'environnement ?
La majorité constitue en fait des puits à carbone qui ont un rôle important contre les changements climatiques. L'exemple que nous donnons très souvent, c'est les tourbières. Les tourbières sont des milieux qui stockent le carbone trois fois plus que les forêts. Le delta de l'Okavango, au Botswana par exemple, arrive à héberger jusqu'à 200 000 grands mammifères et ce delta protège contre la sécheresse pendant les hivers secs.
Quelles sont aujourd'hui les principales menaces qui pèsent sur ces zones précieuses que vous décrivez, Paul Ouédraogo ?
Vous voyez, la gestion par exemple des terres, l'inadéquation qu'en fait des politiques en matière de gestion du territoire. Maintenant, au niveau du comportement des particuliers, il faut que chacun de nous soit des ambassadeurs des zones humides pour les défendre, que l'on participe à des mesures de conservation et de restauration des zones humides. Par exemple, organiser une classe. Moi, j'imagine la commune de Kongouti au Burkina Faso, où tous les lycées et toutes les écoles organiseront chaque année un système de nettoyage du lac Bam, qui est efficace. Et ça va permettre effectivement d'utiliser des produits non toxiques venant de cette zone humide.
Merci Paul Ouédraogo.
C'est moi qui vous remercie et puis bonne journée à RFI.
Sur le continent africain, les zones humides sont menacées, comme on vient de l'expliquer Paul Ouédraogo. En France, elles ont perdu les deux tiers de leur surface en un siècle. Jean-Michel Derex, quelles sont les menaces qui ont pesé et qui pèsent encore aujourd'hui sur les étangs et marais de France, sachant que les menaces ont peut-être évolué ?
Oui, ces espaces ont toujours été menacés, et notamment par toutes les opérations de spéculation qui ont pu être menées sur ces espaces, parce qu'il était facile d'expulser toutes ces petites gens qui étaient dans ces marais. Et donc, il y a eu des actions menées par des grands entrepreneurs pour dessécher et pour spéculer sur ces espaces, pour faire des terres céréalières ou des terres agricoles. Mais on a toujours. Bon, c'est évident que ces espaces n'ont pas une grande rentabilité. Il y a un certain nombre d'agronomes qui ont dit, notamment dès le XVIIIe siècle, ce sont des conquêtes à faire sur le néant. Ces espaces étaient considérés comme des espaces nuls, donc on pouvait faire n'importe quoi. Regardez par exemple, notamment dans les pays africains, beaucoup d'aéroports ont été construits sur les mangroves, donc c'est ce qui se passe dans un certain nombre de pays. Mais en France, notamment, on pourrait très bien d'ailleurs, la dernière image dans Les Enfants du Marais, où il y a un supermarché qui est construit sur une partie du marais. Et c'est assez significatif. On pense que ce sont des espaces que l'on peut utiliser n'importe comment parce que ce sont des espaces à conquérir sur le néant. Il y a toujours eu des conflits dans ces espaces parce que les intérêts sont très divergents. Il y a des gens qui vivent de ces espaces, puis d'autres qui veulent en profiter.
Mais du coup, aujourd'hui, on est plus dans une opposition entre des écologistes et...
Alors, c'est un autre sujet. Là, on est plutôt dans le domaine de l'idéologie. On est dans le domaine de l'idéologie où les zadistes font de ces espaces et de ce combat, notamment à Sivens, sur Notre-Dame-des-Landes, font un combat
d'idéologie. Sivens, vous parlez du barrage dans le Tarn.
Du barrage dans le Tarn, tout à fait, où il y a eu un mort. Donc il y a eu des conflits très importants il y a un an et demi, oui.
Et aujourd'hui, en même temps, c'est-à-dire que ce sont des lieux de conflit, et en même temps, aujourd'hui, ces zones humides, ces étangs, ces marais sont valorisés à travers leurs produits.
Oui, ils sont très très valorisés par leurs produits parce que nous sommes aujourd'hui dans un complexe d'insécurité alimentaire. Et de ce contexte, il y a un certain nombre de produits issus de ces espaces qui sont très valorisés et valorisants. Je pense notamment au sel de Guérande, je pense au mouton des prés salés.
De la baie du Mont-Saint-Michel, par exemple.
De la baie du Mont-Saint-Michel, tout à fait. Et puis il y a d'autres produits, il y a le riz de Camargue, il y a le cresson de l'Essonne, beaucoup de produits qui sont très valorisés et très appréciés des consommateurs.
Et donc on est loin de cette image des étangs et des marais où l'on croyait venir voir des démons. Merci Jean-Michel Derex pour votre participation.
Merci beaucoup.
Restez avec nous, C'est pas du vent, continue. Juste après le flash, on parlera de l'avenir du gaz de schiste. C'est dans 3 petites minutes, à tout de suite.
International.